marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Ah, la Corse.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous ?
Une longue famille corse, les Colonna d'Istria.
En 1916, au chemin des Dames, alors que ces hommes lui disaient « Ne sortez pas, ne sortez pas, il y a en face de vous une mitrailleuse allemande », il ne les a pas écoutés, il est sorti, comme il était très grand, il a été décapité. Décapité. Et ma grand-mère, sa mère, lorsqu'elle a appris la triste nouvelle, elle a dit « Pour le bien de la France, je n'ai rien à dire ». C'est volontiers que j'ai fait don de mon fils à la France.
Et en février 1917, l'Athos transportait un bataillon de tirailleurs sénégalais. Le commandant Colonna d'Istria, constatant que le bateau allait couler, organisa d'abord le transfert d'un maximum d'hommes vers les canaux. Et ensuite, il rassembla sur le pont ceux qui n'avaient pu y prendre place. Il les fit mettre en rang, présenter les armes au drapeau. Et ainsi, tous furent engloutis dans les flots, mais en position de parade. L'honneur plus que l'utilité. La famille Colonna d'Istria tient à cette maxime. Il est difficile de dire quand elle s'est constituée précisément. Toutefois, l'impitoyable dictionnaire de la noblesse française observe que c'est une des familles les plus anciennes de l'île, sinon la plus ancienne. Elle se réclame d'ancêtres grandioses, Hugo, à l'époque carolingienne, Arrigo, autour de l'an 1000, des personnages légendaires qui grandissent à mesure qu'on s'éloigne. Au début du XVe siècle, Vicentello fut dans l'île le vice-roi de la couronne d'Aragon. Ensuite, les Colonna d'Istria, si tant est qu'on puisse parler d'eux comme d'un ensemble, s'accommodèrent de la République de Gênes, rejoignirent celle de Paoli, et quand, il y a 150 ans précisément, eut lieu le rattachement à la France, ils trouvèrent chez elle des interlocuteurs qu'ils pouvaient estimer et qui en plus les estimèrent. Dès 1772, leur noblesse était acquise. Mais en Corse, terre d'égalité, il ne faut pas entendre la noblesse exactement comme ailleurs. Il ne s'agit pas de supériorité, encore moins de richesse. Ce n'est pas nous qui portons le nom, mais le nom qui nous porte. L'essentiel, c'est de faire bonne figure. Et faire bonne figure, n'est-ce pas la consigne, que tous les Corses revendiquent comme leur.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Robert Colonna d'Istria, bonjour.
Bonjour, Jean Lebrun.
Un livre de la collection Terre humaine, tel que l'a repris Jean-Christophe Ruffin, c'est le quatrième livre au destiné desquels il préside. 1200 ans de solitude, les Colonna d'Istria. Terre humaine, c'est une collection historique de la maison Plomb. Vous faites le compte de tous les Colonna d'Istria d'aujourd'hui, vous faites une liste, vous arrivez à peu près 400 et encore en manque-t-il. Ce qui est quand même étonnant, c'est que il y en a quelques-uns qui sont scribouilleurs, c'est la définition
que vous donnez de
vous-même. Scribouillard, pardon, c'est différent. Il y en a qui sont médecins, beaucoup, mais il y en a dans toutes les catégories de la population et dans tous les pays.
Oui, j'ai repéré 400 personnes, il en manque très certainement. Et je me suis livré à ce recensement, un recensement assez grossier. Il y a 400 personnes et vraiment qu'on a un peu de mal à distinguer du reste de la population. On en trouve à tous les étages de la société, dans toutes les régions de l'Europe, pour ainsi dire, dans la plupart des pays qui tournent autour de la France, et à peu près vraiment à tous les étages de la société. Et j'explique dans mon livre que si on voulait avoir une idée des Colonna d'Istria aujourd'hui, il faudrait se livrer à un grand travail de sociologie, à une enquête méticuleuse, pour tenter de savoir quels sont les goûts, les revenus, les habitudes
sans
de toutes ces personnes.
Sans compter le Colonna d'Istria inconnu, qui doit reposer quelque part dans une tombe anonyme. Enfin, il y en a tant que, dites-vous, avec un peu de modestie, ces personnes. Eh bien, on en a retrouvé un certain nombre grâce à l'Institut National de l'Audiovisuel. Et l'un d'eux, qu'on va entendre plus d'une fois dans l'émission, c'est Marc, qui, en 1982, à Solacaro, c'est une des bases de la famille, dans la vallée du Taravo, au sud-ouest d'Ajaccio, répondait aux questions d'Igor Barrère.
Mais votre famille remonte à très... C'est une très très ancienne famille.
Très, très ancienne. Comme toutes les familles Colonna d'Istria. La souche était Petretto Bichisan. Oui. C'était des colonnes, tout simplement, qui s'étaient établies dans la région d'Istria. Ici, oui. C'était D'ailleurs, il y avait un vieux château qui existe encore, c'était le château d'Istrie.
Ça compte beaucoup ici, dans les rapports avec les gens, que vous soyez d'une famille noble ou...
Oh, vous savez, on n'en tient pas compte. Hein. Les gens... Évidemment, dans le village, on parle beaucoup de nous. Hein. C'est une famille qui a toujours compté.
Il y a tous les mots là, comme en puzzle. Noble, on y reviendra. Le château d'Istria, on y reviendra. Colonna, on y reviendra. C'est une famille qui compte. Et d'ailleurs, jusqu'où peut-on compter? Comment peut-on remonter?
C'est un travail très, très compliqué de savoir jusqu'où on peut remonter. On peut, un pas après l'autre, partir de soi, aller voir ses parents, son père, son grand-père, ainsi de suite. Assez vite, le nombre de personnes dont nous procédons est considérable. Et très vite, il faut évaluer en milliers, en dizaines de milliers, en centaines de milliers, le nombre de nos ancêtres. Et par exemple, à l'époque de Vincintel, dont vous parliez, au début du XVe siècle, nous avions plusieurs centaines de milliers d'ancêtres. Alors, on s'est amusé, je me suis amusé à essayer de raconter la vie de quelques-uns de ces personnes. Jusqu'où peut-on remonter ? Le titre de mon livre fait référence à un personnage qui a peut-être existé, peut-être été grandi par la légende, Ugo Colonne, qui aurait vécu au début du IXe siècle, qui aurait été un compagnon de Charlemagne. Alors la légende nous fait procéder de ce brave homme, d'un certain nombre d'autres que vous avez mentionnés. Les choses deviennent à peu près sûres à partir du XIIIe siècle. Ouais.
Donc là, Ugo, quand même, on s'arrête un instant, parce que vous dites, il y en a des milliers. Oui, mais il y en a un, comprenez, un, ouais, Ugo. Ouais, ouais. Il ne pouvait pas ne pas y avoir de comté carolingien à l'époque carolingienne en Corse, et c'est donc Ugo qui tenait ce poste. Le mythe finit par devenir plus vrai avec les années, parce qu'il prend de la consistance.
Oui, parce que depuis des siècles, on explique que ce brave homme n'existe pas, et depuis des siècles, on explique qu'il est impossible que cet homme n'existe pas. Et donc on lui donne une vraie consistance. Et dans mon petit livre, j'ajoute un certain nombre de couches pour consolider ce mythe. Mais l'histoire de cette famille est en cela très représentative de toutes les communautés humaines. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y a des légendes. À l'origine, il y a des mythes. Et ce sont des mythes fondateurs. Ugo, son existence réelle, et on peut la discuter tant qu'on veut, peut-être oui, peut-être non, peu importe, mais le mythe de ce personnage est absolument indispensable. C'est ce qui fait passer le peuple corse dans son ensemble, enfin l'ensemble des habitants de la Corse, de l'état de peuplade à l'état de peuple qui a une dimension historique. Ce brave homme qui nous rattache à la Rome chrétienne, à la Rome des Césars, à l'épopée carolingienne... C'est pas seulement la famille qui est rattachée à toute cette évolution du monde, mais c'est l'ensemble des habitants de l'île, et l'histoire de l'île, à partir de Ugo, prend un sens.
Mais attendez, votre château, là, le château d'Istria, cité tout de suite par Marc, quand on entendait en 1982, bon, c'est un château, il y en a 300 au XIIIe siècle.
Absolument, en Corse. Absolument, absolument.
C'est pas grand-chose.
Non, c'est pas grand-chose, c'est rien du tout. Ce château, c'est un château sur 300, qui est apparu, effectivement, au moment au XIIIe siècle, vraisemblablement, peut-être sur des ruines antérieures, peu importe, à un moment où le pouvoir central dans toute la péninsule italienne, et en Corse en particulier, était extrêmement faible, et où tous les petits seigneurs, toutes les petites puissances locales ont imaginé s'ériger en baronnies, en petits fiefs, en petites autorités locales. Et c'est à ce moment-là que des gens ont créé ce château, qui d'ailleurs n'a pas été créé à l'origine par des gens du cru, mais par un patricien génois qui s'est dit, tiens, je vais me tailler un fief. Le type avait fait fortune autour de la mer Noire. Il a baptisé l'endroit du nom d'Istria, et c'est comme ça qu'il a créé ce petit château, mais qui est d'une grande modestie.
Oui, mais attendez, ne vous minorez pas, parce qu'au début du XVe siècle, Vincentello, alors là, lui, on est assuré de son existence. Il va établir des forteresses, celle de Corte, qui est devenue le musée de la Corse, celle de Biguglia, où il est fêté encore, ici un reportage de France 3 2014.
Clôture des médiévales de Biguglia ce soir. Elles ont permis encore une fois de découvrir autrement l'histoire du Moyen-Âge. Encore cette année, le public a pu faire connaissance avec un personnage, Vincenzo le d'Istria, vice-roi de Corse en 1418, que nous présente Solange Gradiani.
C'est un personnage historique très peu connu sur l'île. Pourtant, Vincentello d'Istria a régné sur la Corse durant 13 ans. Ce guerrier originaire de Sartène a mis fin à la domination génoise pendant une vingtaine d'années, au XVe siècle.
Vincentello est arrivé a libéré 90% de la Corse, hein, sauf Bonifacio, qui n'a jamais pu libérer, et a rendu au peuple sa dignité, c'est-à-dire le droit de parler sa langue, le droit de commercer, le droit de s'exprimer, parce qu'en plus c'était un roi, quoi, un vice-roi exactement, qui ne faisait pas de différence entre le peuple et la noblesse.
Dites-moi, ce vice-roi, il était protégé par la cour d'Aragon. L'Aragon voulait mettre la main sur la Corse et constituer même un royaume avec Naples au sud de l'Italie.
Oui, oui, le royaume d'Aragon au début du XVe siècle est un royaume puissant et extrêmement moderne. C'est un État qui est beaucoup plus moderne que l'État anglais, qui a en particulier le souci de protéger le droit des gens avec un certain nombre de dispositions constitutionnelles. Et vraiment, c'est à la fois un État très libéral et aristocratique. Et vraiment, ça avait tout pour plaire à des gens qui étaient issus de ce petit monde féodal. Et ce royaume d'Aragon avait une ambition méditerranéenne très grande. Et il reluquait en priorité le royaume de Naples, le royaume des deux Siciles, donc de Naples et de Sicile, mais également la Sardaigne, sur laquelle il a fait main basse, et également la Corse. Et pendant plusieurs dizaines d'années, ils vont se bagarrer, le royaume d'Aragon et la République de Gênes, qui contrôlait la Corse, et qui contrôlait la Corse pour des raisons strictement géostratégiques et sans du tout le souci de mettre cette île en valeur. Et les deux puissances, Aragon et Gênes, vont guerroyer pendant des années.
Et Gênes va l'emporter, et
Gênes va finalement
Gênes Tello qui combattait sur terre et sur mer va être pris sur mer et exécuté en place publique en 1434 à Gênes. C'est une catastrophe pour la famille qu'on n'appelle pas encore Colonna. Non. Colonna d'Istria, c'est venu quand ?
Alors, Colonna d'Istria, c'est arrivé très tard. C'est arrivé au début du XVIIIe siècle, à l'extrême fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Les gens jusque-là étaient tout simplement les seigneurs d'Istria. Voilà. Et c'était ainsi qu'on les repérait par un prénom, un nom de baptême et leur fonction sociale d'Istria, qui dépendait de la, qui était le nom qu'il rattachait à une région ainsi nommée. Et alors, au moment où il a fallu choisir un nom patronymique, à la fin du XVIIe siècle, un certain nombre de gens ont trouvé intéressant de s'accrocher à la grande famille des Colonna de Rome. Et c'était un échange de bons procédés, parce qu'ainsi, les Colonna de Rome, qui apparaissent en réalité assez tard dans l'histoire par rapport aux petits seigneurs de Corse, n'étaient pas mécontent de trouver dans cette famille insulaire des origines qui les faisaient remonter au temps de Charlemagne. Donc, et ils sont même allés jusqu'à inventer des rois de Corse qui auraient soi-disant régné, mais qui sont complètement bidons, Marius Ier, Marius II, qu'on trouve dans un certain nombre d'histoires qui n'ont jamais été reprises parce qu'ils n'ont aucune réalité.
Alors avec la République de Gênes, les Colonna d'Istria, puisque maintenant il y a Colonna d'Istria, se débrouillent comme ils peuvent, se glissant dans les interstices, maintenant leur seigneurie, très très longtemps, parce qu'elle est un peu isolée, donc au sud d'Ajaccio, et beaucoup vont suivre Paoli dans son effort d'indépendance au milieu du XVIIIe siècle. Et le fameux voyageur anglais John Boswell, qui va faire beaucoup ensuite pour la légende de Pascal Paoli, a été reçu par le chef d'État corse dans une maison de Sollacaro, le village fief, qui appartenait à Colonna d'Istria.
À Sollacaro, où le voyageur parvient enfin, des sentinelles veillent, 300 mercenaires, dont plusieurs sont prussiens, forment la garde de Paoli. À sa porte, c'est un chien féroce. Dans son antichambre, des gentilshommes corses, dont Boswell, plein de troubles et de timidité, fend la haie jusqu'au bureau du général. « Je voyage, monsieur, lui dis-je, et j'arrive de Rome. » Après y avoir vu les ruines du peuple le plus courageux de la terre, je viens ici contempler le commencement et l'élévation d'un autre peuple qui ne le cède point aux anciens Romains. Il reçut mon compliment d'un air gracieux en observant qu'il y avait peu d'apparence que les Corses puissent jamais, comme les Romains, devenir un peuple conquérant. Mais rien n'empêche, ajouta-t-il, que la Corse ne puisse devenir un pays heureux et florissant.
Raoul Laudibert, grand conférencier d'autrefois, alors dites-moi, la maison de Sollacaro appartenant toujours, bien sûr, aux Colonna d'Istria, qui gardent en général leur maison forte, ils ont dû être contents quand le sentiment autonomiste est revenu de mettre une plaque. Alors, Paoli a reçu ici Boswell.
Ouais, alors c'est écrit non pas sur la maison, mais sur un mur de la municipalité, sur un mur municipal. Pour une petite raison anecdotique que je raconte dans mon livre, c'est que Boswell, dans le récit de son voyage et de sa rencontre avec Pascal Paoli, qui d'abord s'est passé très mal, parce que Paoli croyait que Boswell était un espion qui venait essayer de lui tirer les vers du nez. Et bon, finalement, ça se passe très bien, sauf qu'en partant à la fin de son séjour, Boswell est malade. Et il a attrapé froid parce que la maison n'était pas bien chauffée, il y avait des courants d'air,
etc. Il y a des courants d'air chez les colonels d'Istria.
Il y avait des courants d'air chez les colonels d'Istria. Et alors, l'histoire s'est ainsi écrite que si Boswell avait eu froid dans cette maison, c'est parce que les colonels d'Istria n'étaient pas là au moment où ils avaient mis généreusement leur maison à la disposition de Boswell. Ils n'étaient pas là et ils avaient évidemment les moyens de se chauffer. Mais donc, le propriétaire, en 1980, le propriétaire de cette maison ne voulait surtout pas qu'on puisse soupçonner ses ancêtres d'avoir manqué à leur devoir d'hospitalité.
La colonne d'Istria ne peut pas être mal chauffée.
Être mal chauffée.
Il faut faire bonne figure.
Absolument, faire bonne figure.
Après la défaite de Paoli, le rattachement à la France, c'est le 150e anniversaire aujourd'hui, les Colonna d'Istria vont estimer les Français, les considérer comme des interlocuteurs, d'autant que la France permet de confirmer ou d'acquérir une noblesse évidente, enfin, qu'il faut affirmer. Noblesse bien plus évidente que celle des Bonaparte, qui font aussi des pieds et des mains pour devenir nobles après le rattachement.
Oui, alors ça c'était une vieille revendication de toutes les élites corses pendant toute la domination génoise. Or, Gênes était une république qui ignorait la noblesse, en tout cas, qui ignorait la noblesse dans les territoires administrés par la république. Car il y avait un certain nombre de familles patriciennes, mais qui étaient des familles fondatrices de la république. Tous les autres étaient vraiment des citoyens de deuxième zone. Et c'était une vieille, une très ancienne revendication des Corses que l'on reconnaisse leur statut noble. Alors, c'est une notion, la noblesse, sur laquelle on pourrait parler pendant des heures, passionnante, mais en tout cas, c'était ce qui permettait aux personnes d'accéder à un certain nombre d'emplois publics. Et si vous voulez, pendant tout le temps de l'époque génoise, aucun Corse n'a jamais accédé, pour ainsi dire, à des emplois publics significatifs. À partir du moment où on permettait aux Corses d'accéder à ce statut, eh bien, toutes les portes leur étaient ouvertes. Un des exemples illustres est celui de la famille, effectivement, Bonaparte, dont un des enfants, parmi d'autres, Napoléon va être admis dans des collèges continentaux au collège de Brienne et à l'école militaire de Paris et accéder donc exactement aux mêmes emplois que les copains.
Bref, un colonna d'Istria, même s'il n'est pas riche, parce que la famille, dites-vous, n'a jamais eu un grand patrimoine, c'est un beau parti. Un groupe de femmes corses, les dames de l'exil, on prononce ça en Corse, dites-le en Corse, Donidi
les îles.
Ah oui, je vous laisse faire. Nous étions dans un champ, attirés par l'amour. Nous cherchions la plus belle. Ça doit être un colonna d'Istria qui parle.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Une longue famille corse, les Colonna d'Istria, un livre dans la collection Terre humaine chez Plomb de notre invité Robert Colonna d'Istria. La République française, là je parle de la Troisième République après la période pour vous bénie en Corse du Second Empire, elle n'a pas beaucoup aidé. La Corse a échappé à la ruine économique qui forçait au départ beaucoup de Corses, mais elle permettait des promotions individuelles, en revanche, aux Corses. Vous insistez beaucoup sur le fait que chaque départ, quand c'est un départ d'une île, surtout d'une île comme la Corse, ça prend des proportions considérables.
Oui, parce que une île n'est pas n'importe quel milieu. Une île est un monde que l'on s'approprie assez facilement. Et à la fois on s'y sent protégé, on s'y sent relégué. C'est un petit peu ambigu. Et à la fois on est clairement chez soi. Quand on est de l'île et qu'on se trouve à l'intérieur de ce territoire, on est chez soi comme dans une espèce de cocon. Et quitter cette espèce de matrice originelle, c'est au départ un petit peu douloureux. Tout en même temps que l'on s'est apprécié aussi la possibilité d'une aventure, d'une autonomie, d'amélioration de sa condition. Et également, ceux qui restent dans une île voient partir les autres douloureusement. Les uns se sentent exclus par la communauté, les autres ont tendance à s'en sentir abandonnés. Et je crois que ces allées et venues vers l'île, au départ de l'île, sont un des éléments constitutifs de l'être insulaire.
Vos maisons sont pleines de chinoiseries, d'objets d'Extrême-Orient, de porcelaine de Chine sur les desserts ou dans les buffets. Colonna, colonie.
Oui, beaucoup de gens de la famille sont allés en Indochine, beaucoup s'y sont mariés, beaucoup ont même adopté des enfants sans s'y marier, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de colonnes industrielles qui sont de purs vietnamiens, et en tout cas, beaucoup, tous ces gens qui ont passé quelques années, parfois des vies entières en Indochine, en ont souvent rapporté des chinoiseries, comme on disait autrefois, de la pacotille, mais parfois aussi de très beaux objets qui traînent encore dans les maisons ici et là.
Alors je ne sais quel était le décor, je pense qu'il était assez austère, de la maison de Solacaro où se tenait en 1982 devant Igor Barrère, Marc Colonna.
La propriété a été créée par mes grands-oncles. Trois étaient officiers et il y avait mon grand-père que vous voyez ici qui est lui resté à la terre. Alors voyez-vous comment ça se passait? Mes grands-oncles finançaient et mon grand-père faisait de la mise en valeur. Il était toujours resté à la terre. C'était un terrien. D'ailleurs, mes grands-oncles étaient officiers.
À quelle époque, ça?
Eh bien, ça remonte à 1880. Ils avaient de l'argent, ils avaient leur retraite, ils se sont sacrifiés, ils ne se sont pas mariés. Et ils avaient une sœur qui était là, qui a toujours vécu sur l'exploitation, et donc à la maison, et qui dirigeait tout. D'ailleurs, elle leur disait, ici, le général, c'est moi. Et puis je vais vous dire autre chose, ma grand-mère c'est une personne qui est morte à 88 ans et qui n'a jamais mangé autre chose que du pain et du fromage.
Allez, faites-nous entrer dans cette maison, Robert Colonna d'Istria.
C'était une maison qui était, à l'inverse de toutes les maisons, puisqu'on parle d'une famille noble, on s'attend à des décors assez flatteurs, à du beau mobilier, on s'attend à des signes extérieurs de richesse. Rien de cela dans les familles corses, rien de cela dans cette maison en particulier, que j'ai très bien connue, que je connais très bien, car elle est toujours habitée par le fils de Marc. C'était des intérieurs extrêmement dépouillés qui, un petit peu à l'image de l'alimentation de la grand-mère, se réduisaient un petit peu à l'essentiel. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait un lit, les chambres c'était un lit, et c'était même pas toujours d'ailleurs une chambre, c'est-à-dire que bien souvent on dormait dans les pièces communes. Et donc l'ameublement était vraiment très modeste. Des choses très belles, des meubles très beaux, de facture rurale, de facture traditionnelle, pré-industrielle si je puis dire, de très beaux objets, très simples, mais il n'y avait absolument aucun confort évidemment, et aucun signe de richesse, encore une fois.
Les grands-oncles ont choisi le métier des armes, ce qui était assez courant dans la famille.
Au XIXe siècle, ça a été fréquent. Au XIXe siècle, il y en a eu plusieurs. Notamment au moment, à partir de 1830, quand au moment de la conquête de l'Algérie, un certain nombre de gens se sont engagés et ont eu des vies qui certainement étaient agréables et intéressantes par rapport à la vie peu étriqué des villages corses. Et là, ces trois oncles en question, on les retrouve un peu partout. Enfin,
c'est comme ça que dans la famille, il y a une Légion d'honneur tous les 7 ans.
C'est à peu près ce que j'ai compté. Depuis 1804.
Et puis, Deuxième Guerre mondiale, il y a deux compagnons de la Libération. Celui-ci, Paulin, était le représentant de la France libre au moment où celle-ci va prendre, avec le concours des communistes de la Résistance et de tous les membres du Front National, le contrôle de la Corse. Paulin Colonna d'Istria, compagnon de la Libération.
Malgré une très brève apparition, l'un des premiers résistants en Corse, celui qui fut Paul Cesari dans le Maquis, qui est redevenu le colonel Colonna d'Istria, a bien voulu nous apporter un témoignage humain. Le témoignage d'un Corse qui, vivant loin de son pays, revient lorsque celui-ci est accablé. Le sous-marin Casabianca débarque Paul Cesari sur les côtes de Corse.
Le soir, à la nuit tombante, le sous-marin remonte à la surface. Le commandant m'appelle. Dans la montée de l'échelle, l'air m'écrase. Je fais des efforts pour gravir cette échelle. J'arrive sur le kiosque, complètement aveuglé. Dans la nuit, je n'aperçois rien. Rien que dans le fond, une masse sombre. Et de-ci, de-là, un ou deux scintillements lumineux. La voilà, me dit-il. C'est la Corse. Dire à ce moment quelle fut mon émotion. Dire à ce moment de quoi je fus envahi est impossible à décrire. C'était un soir d'orage. Il pleuvait violemment. Et je bénis le ciel que la pluie ait lavé mon visage et noyé mes larmes et n'ait rien laissé paraître de ce que je venais de vivre intensément.
Un témoignage recueilli en 1949. Donc le visage baigné de larmes, mais il y a la pluie, donc un colonel d'Istria ne doit pas se montrer pleurant devant ses hommes, il faut faire bonne figure.
Il n'avait pas beaucoup d'hommes avec lui, hein. Il était là pour organiser les forces qui existaient dans l'île, il n'avait pratiquement pas d'hommes avec lui. Alors il pleurait, mais il lui est arrivé, le pauvre, quelque chose de beaucoup plus ennuyeux, c'est qui le sous-marin Casabianca qu'il apportait d'Alger était entouré par des bombes qui ont explosé et qui lui avait percé le tympan et il avait perdu en grande partie l'audition. Voilà.
Et il a travaillé avec les communistes, il disait je suis en service.
Ben oui, exactement, il était là pour organiser la résistance en Corse, donc il n'était pas du tout communiste, mais il était envoyé par le général Giraud, donc il fallait pas perdre de temps. Et alors, une des forces principales qui existait en Corse, c'était les communistes. Il en connaissait un peu les chefs, qui d'abord n'ont pas voulu de lui, et ont dit on est assez fort pour se débrouiller tout seul, bon, puis finalement ils se sont entendus. Il a travaillé avec les communistes, tout en réussissant quelque chose qui a été assez intéressant, c'est à éviter l'épuration à la fin de la guerre en Corse. Il n'y en a quasiment pas eu, ce qui était pas mal. Et en laissant quand même les communistes également un petit peu en marge de la vie publique, même si à la libération, ils vont prendre un certain nombre de municipalités.
Hein, il a fait de la politique, parce que je voulais vous poser une question sur la participation des colonels d'Istria à la politique contemporaine, enfin, depuis le 19e siècle. Lui, il n'a pas fait de politique.
Non, lui n'était pas fait du tout pour faire de la politique. Il s'est présenté aux élections législatives à la demande du général de Gaulle sous l'étiquette RPF en 51, je crois, quelque chose comme ça. Sitôt élu, il a démissionné parce qu'il n'était pas fait du tout. C'était un militaire et il n'était pas fait du tout pour la vie politique. Enfin,
vous n'avez jamais réussi, pourtant vous êtes nombreux, à avoir un parlementaire durable.
Non, on a eu deux parlementaires, mais l'un qui a été invalidé sitôt élu, Ignace Alexandre en 1830, et donc Paulin qui est resté élu 3 jours, je crois, enfin quelque chose comme ça.
Il n'y a même pas un candidat, Colonna d'Istria, dites-vous, sur la totalité des listes aux dernières régionales
en
2017.
C'est ce que j'avais compté l'hiver dernier, non, pas un seul, c'est assez curieux, parce que d'habitude, alors on en trouve pas mal dans les conseils municipaux, où les gens se bagarrent, on en trouve un peu sous toutes les étiquettes, un peu partout, et là, cette fois-ci, il n'y avait pas un seul, c'est assez curieux.
Moralité de votre travail, mais à l'usage de toutes les familles, n'importe quelle famille, les familles qui ne sont personne.
Je compare dans mon livre l'histoire sur le très long terme d'une famille avec une ville qui aurait un cœur historique, né par exemple au 10e, 12e siècle, à Paris, il y a au cœur de Paris, la cathédrale Notre-Dame, des quartiers qui datent de cette époque, du 12e siècle, et puis ensuite les quartiers ont grandi, les fonctions de la ville se sont transformées, la ville a grossi, etc. L'histoire de la famille, que je raconte, comme n'importe quelle famille, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un noyau dur, un cœur historique, que l'on arrive très clairement à identifier, et puis ensuite ça se dilue dans une masse, et il devient difficile, mais tout simplement parce que l'époque est ainsi, il devient difficile de reconnaître ce qui fait la spécificité d'une famille.
Oui, mais le cœur bat quand même. 1200 ans de solitude, les colonnades d'Istria, collection Terre humaine. Vous serez non loin de l'intramuros de Saint-Malo ce week-end au festival Étonnant Voyageurs, où vous participerez à une table ronde avec les auteurs de la dite collection. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin, Audrey Ripouille, la réalisation, Florent Layani. La technique,